Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir à vous qui êtes là, qui peut-être venez pour la première fois, une des premières fois. On est heureux de pouvoir se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous croyons que c'est un moment important et nous croyons que toute la Bible est inspirée de Dieu. J'aimerais, Nicolas a voulu, en introduction, lorsqu'il a présenté un chant, parler de l'importance qu'il y ait un roi, qu'il y ait quelqu'un, parce que c'est vrai que s'il y a personne qui nous montre la voie, on est vite perdu. Et c'est pas là le thème de mon message, mais j'aimerais vous le lire. Ne cherchez pas, je lis pour vous, parce que ça, quand même, ça rejoint un petit peu mon message. C'est dans Osée, chapitre 4, et le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et on a besoin de pouvoir acquérir cette connaissance, non pas une connaissance intellectuelle, mais bien sûr une connaissance biblique et plus encore de qui est Jésus-Christ. Je vous invite, on va faire une lecture ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre des Psaumes, un texte que peut-être vous connaissez très bien. Le Psaume 127, nous allons lire juste le premier verset. Après quoi, nous ferons une autre lecture dans le livre des Actes. Psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Et nous allons dans le livre des Actes, maintenant, en gardant en tête ce verset que nous venons de lire, acte 26, à partir du verset 4, nous allons lire jusqu'au verset 23. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte, on pourrait dire selon le parti, la plus rigide, le plus strict de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous lisez ce texte, si peut-être vous l'avez lu sans vous y arrêter. En tout cas, on a là l'exemple d'un homme qui, une partie de sa vie, avait construit, avait voulu bâtir sa vie, ce qu'il était. Il avait mis sûrement tout son cœur, et on le voit, il était zélé, mais pas zélé pour la bonne chose. Il construisait, c'était là le but de sa vie. Et on voit que ce que le psaume 127 nous dit, cela se réalise. Et je vais prendre un raccourci direct pour arriver, et vous l'aurez compris de toute manière, puisqu'on est là ce soir pour présenter le message de l'Évangile. Pourquoi une croix a été dressée ? C'est pour que nous puissions nous comprendre qu'on a besoin de Jésus-Christ pour construire. Parce que sans Jésus-Christ, sans cette croix qui a été dressée, c'est en vain. C'est en vain qu'on veille, qu'on essaye de faire nos efforts, c'est en vain qu'on guette l'avenir, parce que ça sera toujours le néant sans Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui était là dans ce contexte-là, il raconte sa conversion en 3 minutes pour les jeunes, et on voit que c'est parlant, on voit qu'il a expérimenté quelque chose. Et c'est cela qu'il a arrêté dans sa vie. Il va donner son CV, ce qu'il était avant, et on l'a lu ensemble. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue. Ma vie était établie. Ma vie était réglée. Ma vie était là, j'étais dans la secte, le parti des personnes les plus strictes. C'était son objectif de vie. Et on voit, au fur et à mesure de ce qu'il exprime, que finalement, c'était pas tant ça l'importance pour lui. On voit que ce qu'il avait mis en premier ne nécessitait pas la première place parce que ça l'éloignait sans le vouloir. Dans d'autres passages, il dira « mais j'ai agi par ignorance », mais ça l'éloignait du but que Dieu avait pour lui et qu'il a pour chacun d'entre nous. Que ça soit notre religion, notre travail, notre mode de vie, notre mode de pensée, notre manière d'appréhender les problèmes, les difficultés. On entend souvent des personnes qui nous disent « Ah, mais moi, ce qui me tue pas, ça me rend plus fort. » Et ainsi, on se forge un caractère qui nous aide. Bien sûr, on n'a pas tous la même vie. Bien sûr, si ce soir on prenait le temps peut-être d'écrire, parce que on n'oserait sûrement pas raconter certaines périodes de notre vie, on verrait qu'on vient tous d'un milieu différent, d'horizons différents. On a tous passé des moments difficiles et on en passera encore. Et peut-être certaines personnes pourraient dire « mais oh, mais vous savez, moi je me suis construit moi-même ». Jésus, c'est pour les faibles. Jésus, moi, j'en ai pas besoin parce que si je suis arrivé jusqu'ici, c'est par mes propres forces. Oui, si vous êtes arrivé là, sûrement que c'est parce que vous avez su surmonter certaines choses. Mais la Bible nous dit, celui qui ne bâtit pas avec Dieu, c'est en vain qu'il construit. Un autre passage de l'Écriture pourra nous dire, et c'est un homme qui a voulu réfléchir sur la vie, le sens de la vie, sur ce qu'on pouvait faire, sur l'importance des choses, pourra dire, mais voilà, j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Tout. Je ne sais pas si ce soir quelqu'un pourrait dire, mais j'ai voulu réfléchir sur tout. Et cet homme était là, réfléchissait, il a pris le temps, il a regardé, et sa conclusion, c'est « j'ai vu que tout ce qui se fait sous le soleil est vanité et poursuite du vent. Tout ce qu'on peut essayer de faire sans Dieu, c'est vanité et poursuite du vent. Et Saul de Tars, qui va devenir l'apôtre Paul, et on va le voir ensemble, est une personne qui, lui, pour l'instant, au début, ne se posait pas trop de questions. Ou du moins, il s'était posé certaines questions. Pour lui, c'était clair. Il va le dire, et c'est ce que nous avons lu au verset 9, « Je m'opposais de toutes mes forces à la cause de Jésus de Nazareth. » Il avait pris position. Pour lui, c'était clair. Jésus, il s'opposait. Il va aller même plus loin parce qu'il va dire « J'étais convaincu qu'il était de mon devoir de combattre ce nom énergiquement par tous les moyens. » Cet homme qui était là, et on l'a vu, je ne vais pas répéter, c'était clair pour lui. Jésus, il voulait le combattre. Jésus, il n'en voulait pas. Jésus, il ne voulait pas de sa cause, il ne voulait pas de son message. Il s'opposait à Jésus-Christ. Combien ce soir peuvent dire, mais moi je me suis opposé à Jésus-Christ. Moi je n'en voulais pas. Dès qu'on me parlait, dès que j'entendais parler de Jésus-Christ, j'étais là, je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes, ce n'est pas pour moi. Combien ce soir on peut dire, mais oui c'est vrai, et peut-être que vous en êtes là ce soir, on ne sait pas vraiment. Où est-ce qu'on en est dans notre cœur? On ne sait pas. On est tous là, on passe un bon moment, on a chanté des cantiques spirituels, on partage la parole, on va se séparer dans quelques instants, on ne sait pas. Est-ce que vous, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il y a une opposition? Est-ce que vous avez de la violence à l'égard de Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez combattre Jésus-Christ? Il y a des personnes qui veulent absolument démontrer que la parole de Dieu, c'est faux, ça a été écrit par des hommes. Il y a plein de personnes qui veulent prouver que la Bible a tort, prouver que ce n'est pas possible. Et l'apôtre Paul était de cela, et sa vie, si sa vie s'était arrêtée là, il aurait continué, il l'aurait dit comme lui en rend témoignage, il aurait poursuivi la persécution, il aurait fini sa vie comme cela, mais pour son éternité, il n'aurait pas pu dire, mais voilà, je veux partager l'héritage des sanctifiés. Et ça, c'est clair, et on y reviendra tout à l'heure. Mais dans ce texte, quand même, lorsqu'on le lit, lorsqu'on le médite, on est obligé d'y voir l'amour de Jésus-Christ. On est obligé de voir comment un homme qui respirait le meurtre, la violence, qui s'opposait au Fils de Dieu, à celui qui s'est dépouillé, combien un homme qui combattait Dieu, s'est laissé toucher, s'est laissé approcher. Jésus a voulu lui parler. Et ce soir, peut-être que vous ne pouvez pas retenir tout ce que je raconte, tout ce que je dis, mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que Jésus-Christ, lui, n'a pas changé. Et de la même manière qu'il a pris le temps, de la même manière qu'il a voulu donner encore une chance à Saul de Tarse, ce soir il vient encore pour entamer la discussion, j'allais dire, pour créer ce lien, pour pouvoir nous parler. Parce que son désir, c'est de nous arrêter sur notre chemin, c'est de nous arrêter dans notre folie. Le désir de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'on dise et qu'on continue dans ce chemin qui est là, qui est le nôtre, mais dans ce chemin où nous mettons pierre sur pierre, sans Dieu, parce que tout cela s'est voué à rien, au néant. Il y a eu un changement de direction dans la vie de Saul de Tarse. Il faut du courage, il faut se laisser toucher, il faut comprendre et accepter quelquefois qu'on peut commettre des erreurs. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il continue, il explique tout en détail pour être sûr que l'on saisisse bien ce qui s'est passé à ce moment-là, pour que nous puissions vous comprendre que ce soir l'important, dans tout ce que l'on partage, c'est pas de savoir que Saul de Tarse a été sauvé, s'est converti, que c'est devenu l'apôtre Paul. Bien sûr, on le sait, on est content, c'est intéressant, mais ce qui est plus encore important, c'est qu'au travers de sa vie, nous puissions saisir pour notre propre vie, notre propre existence, que c'est possible. qu'on peut vivre ce que cet homme a vécu. Il y a eu une réorganisation, une réorientation, un changement de direction. Jésus s'est révélé, Jésus a voulu se montrer. Et la phrase qu'il a dit, c'est « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il aurait pu dire « Écoute, écoute ». Il aurait pu venir dans cette lumière resplendissante. Il aurait pu dire « Écoute, voilà, je suis mort sur la croix, j'ai souffert, mais maintenant je vais régner, maintenant il va t'arriver des problèmes ». Il aurait pu, Jésus aurait pu se présenter à lui comme ça. Mais ce n'est pas le message de l'Évangile, ce n'est pas le but de la venue de Jésus-Christ. « Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus, Jésus qui a souffert pour toi. Je suis Jésus qui a été crucifié pour toi. Je suis Jésus qui a porté cette couronne d'épines pour toi. Je suis Jésus qui s'est dépouillé, qui a accepté de marcher en tant qu'homme, qui a accepté les insultes, les crachats pour toi. » C'est cela que Jésus est en train d'expliquer à l'apôtre Paul. C'est cela ce soir qu'il veut nous dire. Je suis Jésus. Ce soir, je suis Jésus, toi qui me rejettes. Je suis ce Jésus auquel tu t'opposes. Je suis ce Jésus dont tu n'as jamais voulu pour ta propre vie. Et lorsqu'il s'adresse de cette manière à l'apôtre Paul, l'apôtre Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, va dire « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que nous pouvons arriver à dire cela ?» C'est une question sérieuse ce soir, qu'on pourrait se poser, qu'on doit se poser. Est-ce que on va repartir encore une fois en méprisant la croix? On a chanté « Une croix dressée, donnez-moi 1000 voix », mais est-ce que cette croix est là, dressée dans notre cœur, ou c'est juste un cantique que l'on chante, c'est juste un moment, et puis on va repartir, et puis on va continuer à persécuter d'une certaine manière Jésus-Christ, parce qu'on s'oppose à son amour, on s'oppose à sa délicatesse, on s'oppose au projet et au plan qu'il a pour notre vie. Est-ce que on va encore, une fois de plus, rejeter cet appel d'amour qui nous dit « Mais il faut que tu sois stoppé. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir sur ce que tu fais, de réfléchir sur ta vie. » Parce que le désir de Dieu, quand même, c'est qu'on puisse bâtir pour l'éternité. C'est que notre maison spirituelle, ça soit une maison qui dure. Ça ne soit pas une maison, vous savez, lorsqu'on voit cela, lorsqu'il y a des inondations, ou un incendie, ou une catastrophe, les maisons les plus solides paraissent s'effriter comme de la poussière. Mais laissez-moi vous dire ce soir que si on refuse une fois de plus Jésus-Christ, notre vie, c'est ça la finalité. C'est ça la finalité. La Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Et c'est par cet amour, grâce à cet amour, que nous pouvons encore ce soir venir accepter qu'il nous parle, accepter que oui, nous sommes pécheurs, accepter que dans notre vie, on n'a peut-être pas toujours pris les bonnes décisions, fait les bons choix. Mais ce qui est important, c'est pas notre passé, c'est pas ce qu'il y a eu hier, c'est pas ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Ce qui est important, c'est ce soir, c'est qu'est-ce que nous allons faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ? L'apôtre Paul aurait pu dire, écoute Jésus-Christ, voilà. Il aurait pu dire autre chose, il aurait pu dire, au lieu de dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? Il aurait pu dire, écoute, je continue mon chemin. Et je pense qu'on aurait été tous choqués si c'était écrit dans la Bible. Je pense que si ça avait été ça, ce soir, on aurait partagé ce texte, et alors qu'on l'aurait lu, plusieurs se seraient dit « Ah, mais quand même, il a exagéré, Saul de Tarse, Jésus-Christ s'est révélé à lui, il n'a pas voulu prêter attention, quand même il a exagéré. Moi, à sa place, je me serais arrêté. » Et pourtant, combien de fois est-ce que nous passons notre chemin? Combien de fois est-ce que nous refusons l'amour de Jésus-Christ? Combien de fois est-ce que nous sommes là, on entend la parole de Dieu, on entend ce que Jésus-Christ veut, on voit, c'est tellement clair ce qu'il a prévu pour nous, et pourtant on décide de continuer notre chemin. Mais c'est pas pour l'apôtre Paul, en tout cas, lui, il a pris le bon chemin, parce que s'il y a eu un changement de direction, il a continué sur ce chemin. Ça a été là comme un aiguillage, comme il a pris le bon panneau, il était sur le périph', il a pris la bonne sortie, et il sait que là, il peut continuer. Et nous devons, ensemble, on doit continuer sur ce chemin. L'apôtre Paul va avoir des révélations, et ce qu'il va expliquer, c'est ce que Jésus lui a montré. Mais au travers de ce que Jésus lui a montré, c'est ce que nous devons comprendre pour pouvoir nous situer. Parce que c'est sûr qu'il avait une mission particulière. Mais au travers de ça, ça nous montre où est-ce que nous, on en est. Il est écrit, on l'a lu ensemble, « Je t'ai choisi, c'est Dieu qui parle à l'apôtre Paul. Il a un appel, c'est sa mission. Je t'ai choisi parce que, afin... que tu ouvres les yeux au peuple, aux personnes, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Je t'ai envoyé pour qu'ils ouvrent, pour que tu puisses leur ouvrir les yeux. » Et on ne va pas s'attarder trop longtemps sur cela, mais on va y venir un petit peu quand même, parce que je pense que c'est une des premières étapes que nous devons vivre dans notre vie. Dans notre démarche, saisir que finalement, sans Dieu, j'ai pris l'image de celui qui bâtit sa maison sans Dieu, mais sans Dieu, si nous bâtissons en vain, nos yeux, d'une manière spirituelle, sont fermés. Nous sommes aveugles. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples qui relatent cela. Et nous devons comprendre que nous avons besoin de nous positionner. Parce que c'est quand même clair ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit il y a deux camps. Il n'y a pas un milieu, il n'y a pas une partie neutre, il n'y a pas une parenthèse, vous savez, où on dit « mais je prends une année sabbatique et je verrai après ». Ça n'existe pas avec le Seigneur. C'est où on est dans les ténèbres, où on est dans la lumière, où on est de la puissance de Satan, où on est dans la puissance de la puissance de Dieu. Et au travers de cela, et on peut être surpris, on peut être choqué en disant « mais quand même, c'est exagéré, moi je fais pas de mal, moi j'essaye d'avoir une vie honnête, d'avoir une vie correcte, j'essaye ceci ou cela ». Mais la Bible nous dit, et c'était ce qui était important pour l'apôtre Paul de communiquer, et c'est ce que nous, qui est important ce soir de comprendre, c'est qu'on doit être au clair avec nous-mêmes. Si on choisit les ténèbres, on choisit les ténèbres. Mais quand même, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit dans la lumière. Jésus est la lumière. Si on est dans la puissance de Satan et qu'on veut, ce soir on dit « ben non, mais moi je veux rester », ben restez, personne ne peut vous forcer. Mais quand même, la volonté de Dieu, ce n'est pas que toute notre vie, on reste dans la puissance de Satan, comme opprimé, notre frère Nicolas, cet après-midi, prêchait sur l'oppression du diable, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on a ce soir cette honnêteté de regarder notre vie, de regarder ce que l'on a construit? Est-ce que Jésus est dans notre vie? Est-ce que nous l'avons invité? Est-ce que nous nous sommes arrêtés pour réfléchir un instant? En tout cas, ce texte, et ce soir, c'est un moment où nous pouvons nous arrêter. Il y a tellement de textes, j'ai noté beaucoup de textes, mais on ne va pas tous les voir. Mais vous savez, lorsqu'on cherche, on trouve. Lorsqu'on frappe à une porte, à la porte de la vérité, Jésus nous ouvre cette porte. Et ce soir, ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté sans cette connaissance. Mon peuple périt. Sans la connaissance de la vie, on ne peut pas avoir la vie. Sans avoir rencontré Jésus-Christ, on ne peut pas connaître cette vie. Spirituellement, nous sommes aveugles. Spirituellement parlant, on est tous dans les ténèbres. La seule chose qui peut faire la différence dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Et il y a quand même des étapes dans ce texte. Il faut que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils reçoivent après, par la foi en moi, le pardon des péchés. Et vous voyez, on pourrait dire, oh, c'est bien écrit, c'est bien, c'est correct, mais quand même, il y a un processus dans notre vie. Parce qu'on pourrait parler du fait qu'on est perdu. On pourrait ce soir dire, et on pourrait le démontrer par tellement de versets bibliques, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si on n'a jamais ouvert les yeux sur notre péché, si on n'a jamais ouvert les yeux sur notre condition, est-ce que réellement, par la foi, on peut réclamer le pardon de nos péchés? Est-ce que réellement on va saisir l'importance de la repentance? Jésus va le dire d'une autre manière, il va dire « mais ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades ». Ce n'est pas ceux qui se reconnaissent comme droits qui ont besoin d'un sauveur. Ce n'est pas ceux qui se reconnaissent sans péché qui ont besoin d'un sauveur. C'est ceux qui reconnaissent leur sauveur. Et Jésus est venu pour nous offrir ce salut. Jésus est venu pour que nous puissions ouvrir les yeux, pour que, confrontés à l'œuvre de la croix, nous puissions saisir l'importance du sacrifice de Jésus-Christ, que nous puissions saisir que oui, peut-être qu'avant on était en vrac, avant on a fait des mauvais choix, avant il y avait ceci ou cela, mais l'important c'est ce soir. Oui, est-ce que vous voulez, est-ce qu'on veut ouvrir les yeux? Est-ce qu'on veut crier à Jésus-Christ par la foi en disant « mais j'ai besoin de toi, je reconnais que ma vie sans toi, c'est rien, je reconnais que j'ai essayé de bâtir ma vie, mais sans toi, je ne peux pas ». C'est cela la repentance, c'est cela le message que Paul est en train d'expliquer, ce message qui doit divulguer au monde entier, c'est ce message que nous ne pourrons jamais nous lasser de partager. On a besoin de se repentir, on a besoin de changer de mentalité, on a besoin, nous aussi, de faire des virages à 180 degrés dans notre vie pour marcher sur ce chemin que Jésus-Christ a prévu. L'apôtre Paul va s'adresser au roi et va dire en conséquence, « Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » En conséquence, et je me suis arrêté sur cette expression « en conséquence », parce que quand même, il a vécu des choses extraordinaires, cet homme. Tout ce qu'il avait appris plus tard, il pourra le dire, mais tout ce que j'ai, je le regarde comme rien. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que j'ai accumulé comme savoir, c'est Jésus-Christ. Il y avait eu vraiment une conversion extraordinaire. Et lorsqu'on prend la traduction de « en conséquence », la signification vraiment littérale, c'est une source de laquelle une chose est connue. Provenir, le moyen. Il est en train d'expliquer que la source de sa vie a changé complètement. Il est en train d'expliquer au roi et à toutes les personnes qui étaient présentes que ce qu'il était avant, c'était la source de sa vie, mais maintenant, c'est plus ça. Il est en train d'expliquer, et c'est cela la conversion. C'est cela où nous amène la repentance, c'est que nous puissions saisir que la source de notre vie, ce n'est plus ce que nous avons bâti, ce n'est plus ce que nous avons construit, ce n'est plus ce que nous avons pu expérimenter dans notre vie, mais c'est Jésus-Christ. Maintenant, je ne combats plus Jésus-Christ. Maintenant, je ne m'oppose plus à Jésus-Christ, parce que maintenant, la source de ma vie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, roi Agrippa, maintenant, et on pourrait mettre notre prénom à chacun, maintenant, parce que je me suis arrêté, parce que j'ai écouté ce que Jésus me disait, parce que je me suis laissé interpeller par l'œuvre de la croix, la source, ma vie entière, a changé complètement. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer avec ce qu'il va dire, parce que par la foi, on reçoit le pardon de nos péchés, mais par la foi aussi, on a l'héritage avec les sanctifiés. Un peu avant, l'apôtre Paul, qui était là, qui ne se lassait pas d'expliquer certaines choses, le message de l'Évangile, pourra dire « Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. » C'est ainsi. On ne peut pas aller à l'encontre de la sagesse divine. On ne peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé. Et je ne sais pas ce que vous en pensez ce soir. Il vaut mieux être devant Dieu en tant que fils, que fille, ou en tant qu'étranger. Il vaut mieux être pour Dieu ses enfants ou des étrangers. Est-ce que on peut ce soir espérer avoir l'héritage avec les sanctifiés, avec ceux qui ont fait cette expérience de la nouvelle naissance? C'est cela qui est dit, c'est cela qui nous attend à nous tous qui sommes nés de nouveau. Au début de l'évangile de Jean, il y a ce texte extraordinaire qui nous parle de, au commencement, la parole a été faite chair. Et il est question de la lumière, et il va y avoir des cris que il y en a qui ne vont pas le recevoir, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ça qui nous ouvre cet héritage, c'est lorsque nous devenons enfants de Dieu. C'est lorsque nous recevons Jésus-Christ, et c'est cela l'invitation. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous recevons Jésus-Christ, si nous passons par la repentance, si nous connaissons la nouvelle naissance, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons part à cet héritage. L'apôtre Paul aurait pu continuer dans son exposé, mais il s'est arrêté ainsi. Voilà ce qui est là, disponible pour nous. Ce soir, on a le choix, et je l'ai dit, je le répète peut-être pour la 10e fois, on a le choix de partir, on a le choix de laisser de côté cela, de peut-être nous opposer une fois de plus à Jésus-Christ, ou on a le choix peut-être de prendre le temps de se dire, mais est-ce que cet héritage n'est pas pour moi? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas le droit d'hériter parce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas le droit aux bénédictions? Est-ce que moi aussi, et je vous le dis, peut-être qu'il y a là dans ce lieu quelqu'un qui naît de nouveau, converti, et qui pense que finalement Dieu l'a laissé de côté. Que l'héritage, c'est plus pour lui, mais c'est pas vrai. Parce que Dieu nous aime. Et Dieu nous a prévu un héritage. Dieu nous a prévu quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais nous devons rester fidèles. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous attacher et rester centrés sur l'œuvre de la croix. On va prier le Seigneur un instant. Notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles. Oui, ce soir, nous ne voulons pas bâtir sans toi, sans Jésus-Christ dans notre vie. Nous ne voulons pas passer à côté de toi. Nous voulons nous arrêter, prendre le temps de réfléchir. Pouvoir, Seigneur, être là, confronté peut-être une fois de plus à l'œuvre de la croix. Seigneur, pour voir ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, pour saisir cet amour. Seigneur, peut-être il y a là dans ce lieu quelqu'un qui doit passer par la repentance. Si c'est ce que le Seigneur vous demande, faites-le, n'attendez pas. C'est une bénédiction d'obéir. Peut-être, mon Dieu, dans ce lieu, il y a un chrétien, une chrétienne, ton enfant, qui pense que l'héritage, c'est plus pour lui, qui pense qu'il est mis de côté, mon Dieu. Mon Dieu, ce soir, visite, bénis, rappelle-toi notre cœur, rappelle ton amour, ce que tu as fait sur le bois de la croix pour que nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur toi. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Merci pour cet héritage, oui Seigneur, nous voulons attendre les yeux fixés sur toi. Et en attendant, Seigneur, nous voulons travailler pour toi, œuvrer, faire ce que tu nous demandes, parce que c'est là une bénédiction. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as prévu, pour tout ce que tu as prévu de faire encore dans cette ville de Toulouse, là où tu nous as placés, mon Dieu. Merci, et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.